Littérature, cinéma, musique, théâtre, bande dessinée. Tous les arts ont leur place dans la République des Arts. La République des Arts, présentée par Soleil. Ceci est un dispositif culturel. Parlez-en autour de vous.
Bonjour et bienvenue dans la République des Arts. Comme chaque jeudi, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et justement, la République des Arts se plie en quatre pour vous donner de quoi passer un bon week-end à la découverte d'un livre, d'un artiste, d'un album, d'une exposition ou d'un concert. Alors voici nos propositions pour ce week-end. Il y a la dernière escale de Lounès Rezali, un jeune écrivain qui s'attaque dans ce troisième roman à un thème tabou, la mort, en se glissant dans le corps d'une mourante. Un voyage dans le Malouf à la découverte du Bachof avec l'association El Maqam de Constantine qui œuvre pour la préservation du patrimoine musical de Constantine. Et puis, il y a ce premier salon des sciences sociales à Oran, un important rendez-vous pour les sociologues et tous les chercheurs. Nous aurons avec nous Mohamed Mobtoul en direct d'Oran, pour nous, qui est professeur en sociologie et qui nous parlera de cet événement. Rezali, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la République des Arts. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission. Vous en êtes à votre troisième roman. C'est un roman, presque un récit d'ailleurs, de une centaine de pages et plus, qui s'appelle La dernière escale et qui, donc, comme je le disais, aborde un sujet qui est encore tabou un peu chez nous, même si la mort, elle est omniprésente dans nos vies. Il n'y a pas de vie sans la mort et il n'y a pas la mort sans la vie. Donc, vous abordez ce sujet d'une façon très personnelle et très originale, puisque nous, c'est la personne qui est dans cette dernière étape, c'est-à-dire entre la vie et la mort, qui nous raconte un peu ses derniers moments et qui nous raconte un peu ce qu'elle entend et ce qu'elle voit jusqu'au bout. J'imagine que c'est quelque chose qui vous a... C'est pas venu de n'importe où, cette idée. C'est un événement qui vous a touché personnellement, qui vous a inspiré ce roman.
Oui, c'est un événement qui m'a touché parce que j'ai perdu mes parents donc en 4 ans d'intervalle, ça fait à peu près une dizaine d'années. Donc il y a quand même ce côté-là, donc d'atténuer peut-être un besoin d'atténuer le chagrin.
Comme une catharsis un peu.
Un peu comme une catharsis, mais il y a aussi parce que les thèmes parfois on les choisit autrement, on les choisit par rapport aux lectures, par rapport à autre chose. Ce sont des rappes, des instants comme ça, c'est-à-dire l'inspiration, c'est des nuages, ils passent, et puis à un moment, il y a des nuages qui restent, il y a d'autres qui passent sans tenir compte.
Alors l'écriture pour vous, c'est presque une seconde nature, parce que vous n'avez votre activité professionnelle n'a rien à voir avec le milieu du livre ou le milieu artistique. Vous êtes dans l'économie un peu, si on peut parler comme ça. Hein, l'écriture représente pour vous quoi au juste?
J'avais quelques petites prédispositions. Quand j'étais jeune, j'étais toujours fasciné par les contes. Et puis, par la suite, je lisais beaucoup. Dans ma jeunesse, je lisais beaucoup. Je lisais un peu tout ce qui me tombait entre les mains. Et puis, un jour, je pense, quelqu'un qui lit beaucoup,
finit par rendre un peu.
Oui, ce qu'il a
accumulé,
qu'il a dévoré, ce qu'il a mangé, ce qu'il a lu. Ouais.
Donc la lecture a été pour vous une compagne de
longue. Ça a été toujours une compagne depuis très très longtemps. C'est ma passion. Lorsque je veux un peu sortir de parce que le travail que je fais, c'est pas un monde de rêve, ça n'a rien à voir. Donc lorsque je veux sortir un petit peu disons, me reposer un petit peu. Prendre de l'air, c'est dans la lecture. C'est, généralement, c'est dans la lecture.
Alors, la dernière escale, parue aux éditions France Fanon. Donc, je disais, c'est un récit de quelques 128 pages. Et ça commence donc à la première personne du singulier. Et c'est une femme qui nous parle. Et c'est ça qui est étonnant, parce que vous êtes un homme. Et donc, c'est une femme qui nous parle et qui nous parle de ce corps qui l'a fait souffrir. Et on sait pas très bien si elle est déjà morte ou si c'est les derniers instants de sa vie ou si c'est au début juste une maladie qu'elle nous décrit qu'elle vient d'avoir et donc c'est comme une âme un peu prisonnière d'un corps qui ne répond plus à sa volonté qui n'accepte plus ses ordres qui la lâche en quelque sorte.
Elle le dit elle-même, c'est au moment où son corps, justement, ne peut plus bouger. C'est au moment où son corps est inerte que son esprit commence un petit peu son mouvement. J'ai choisi une femme parce que, d'abord, bon, il y a l'histoire de ma mère j'ai mis beaucoup de choses vécues par ma mère. Donc, il y a aussi l'histoire de ma grand-mère. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont vécues par ma grand-mère. Donc, mais j'ai choisi une femme parce que, un peu pour mettre aussi la mort en face de la vie. Parce que la femme est beaucoup plus proche de la vie. C'est elle qui enfante, c'est elle qui donne la vie. Donc, c'est un peu pour mettre la vie en face de la mort dans leur éternelle confrontation.
Et j'ai l'impression que c'était aussi pour cette femme, parce qu'on situe un peu là où ça se passe en Kabylie, donc dans ces familles très nombreuses, parfois presque une tribu, et donc elle a des enfants, on l'apprend petit à petit qu'elle a des enfants, qu'elle aime particulièrement, et de là où elle est, dans ce corps où elle est prisonnière, où elle est en train de le quitter tout doucement, elle nous décrit un peu sa vie par bribes, quelques moments de sa vie, et on a l'impression que c'est pour la première fois elle s'exprime vraiment. C'est comme si on dit souvent les gens qui font un accident ou un accident très grave, ils voient un peu leur vie défiler. Et vous nous faites un peu défiler la vie de cette femme.
Le lieu n'est pas spécifiquement la Kabylie, c'est pas noté, c'est pas spécifique à la Kabylie, on peut le retrouver dans toute l'Afrique.
Bien sûr, hein, c'est une situation commune à tous les humains.
C'est comme un petit peu un appel humain, moi je le vois comme ça, c'est un ultime appel humain, un peu comme si des naufragés jettent les bouteilles à la mer. C'est un petit peu dans ce sens que je vois ce roman. Cette femme a des enfants parce qu'elle elle vit pendant ces derniers instants, elle vit des instants avec une présence d'esprit. Parfois, ce sont des choses, elle décrit des choses qu'elle vit sur le moment. Parfois, c'est des réflexions philosophiques. Et c'est pour la première fois qu'elle pense à ce genre de choses. Et généralement, ça arrive comme ça. Ce n'est qu'après. Ce n'est pas au moment où on est dans la force juvénile, où on est dans la force de la vie, qu'on pense à ce genre de choses. C'est uniquement lorsque l'horizon se voit barré. Voilà.
Alors, page 14, narguant la stupeur de mon corps, mon esprit refuse d'abdiquer. Il se perd de nouveau dans une multitude de questionnements. Obsédé, sans doute par l'envie de saisir ce mal qui ne cesse de ramper à l'intérieur de mon corps, il s'installe dans cette illusion humaine qui veut comprendre tout changement, y compris quand celui-ci vient sous la forme de la fatalité ou d'un autre aspect naturel de la vie. Et tandis que mes pieds et mes mains convulsent et se raidissent pour lutter contre la douleur, je recommence à invoquer Dieu. Je recommence à maudire Satan et à réciter des prières, parce qu'aussi, je me sais proche de l'évanouissement. Donc, c'est une description très, très précise. Comment peut-on, justement, se mettre dans... J'imagine que vous avez vécu, vous avez accompagné vos parents dans ces moments. Mais comment peut-on... Parce que la description, parfois, elle est très, très, très proche de la réalité. Quand vous décrivez la douleur, quand vous décrivez toutes ces parties du corps, que la mort a commencé un peu à s'imprégner dedans. Comment vous avez... Vous êtes imaginé ou vous êtes inspiré d'autres récits ou...
On ne peut pas, justement, il n'y a pas d'histoire de mort. On ne peut pas avoir de l'expérience. Il y a des histoires de vie, il y a des expériences dans les histoires de vie, mais dans les histoires de mort, il n'y a pas d'expérience, malheureusement. Et en plus, même si on accompagne nos parents, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent dans leurs derniers instants. On ne peut pas rentrer carrément dans leur esprit, c'est impossible. Donc, il y a le fruit, il reste le fruit de l'imagination. Ça a été toujours ainsi depuis la nuit des temps. L'homme a tenté de comprendre ce genre de choses uniquement par le fruit de l'imagination.
L'amour, ça vous a toujours fasciné ou c'est quelque chose que vous avez plutôt, vous êtes intéressé à ce thème? Une fois que vous avez vu, justement, une fois que vous l'avez subi dans votre chair et que vous avez vu des parents à vous ou des proches partir.
Certainement, quand on voit ses parents partir, en plus ces derniers temps, on n'entend que la mort.
Il y a eu la pandémie, justement,
qui
nous a...
Elle est omniprésente, donc on ne peut pas s'en échapper à ce thème. En plus... il y a les lectures aussi. Parfois, dans ce que nous lisons, il y a une composante terrestre, mais il y a souvent des composantes célestes. Et quand on s'approprie les mots un petit peu, on fait des images. Et à partir du moment où on fait des images, on commence à constituer tout un univers comme ça.
Est-ce que Ker Karim, le fils de la mourante, c'est un peu vous?
Non, je ne pense pas. On n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais il y a des choses réellement vécues par ma mère que j'ai décrit dans ce livre. Il y a des choses réelles, il y a des histoires vraies. Surtout ça concerne ma grand-mère et mon grand-père maternel. C'est des choses vécues. Mais beaucoup de choses, c'est le fruit de l'imagination.
Alors évidemment, dans la première partie du récit, donc on est juste, il y a le lecteur et cette personne qui nous décrit un peu ses derniers instants, comment elle sent son corps qui la lâche, qui ne lui répond plus, et on a l'impression qu'elle est seule, qu'il n'y a personne autour d'elle et qu'elle est totalement abandonnée et face à elle-même. Et puis, un peu plus tard, on voit évidemment une multitude de gens qui commencent à venir. Et on apprend donc ça va de la belle-sœur au voisin, à la voisine, et ça nous plonge un peu dans ce monde qui est dans nos traditions à nous, parce que évidemment chaque culture a sa propre façon d'accompagner ses morts ou les derniers instants. Dans les cultures occidentales, c'est souvent la famille très restreinte ou parfois le personnel médical, mais chez nous c'est souvent il y a foule autour de la personne qui s'en va, et donc on voit un peu tous ces gens qui sont là, et parfois elle est agacée parce que finalement on a cette image des gens qui sont dans le coma, qui disent qu'ils entendent tout, et là on se rend compte que elle entend tout, qu'elle se rend compte de tout, que la conscience finalement c'est ce qui reste de plus vivace jusqu'au dernier bout.
Elle a ces moments où elle entend, par exemple, elle reconnaît certaines voix. Elle a ces moments aussi où elle a vu une fois jusqu'à voir de la lumière. Elle a vu la configuration de sa chambre. Il y a des moments de presque de pleine conscience. Elle parle de rémission. Après, bien sûr, il y a des voix qui l'exaspèrent parce qu'elle entend des voix elle entend des gens qui parlent d'autres choses. Ils sont autour d'elle, mais ils ne s'intéressent pas à son malheur. Ils ne s'intéressent pas à ce qu'elle subit douleur, comme...
Allez-y.
Comme douleur, je ne sais pas, c'est-à-dire... elle est là dans sa solitude. Elle vit seule tout ce qu'elle subit. Son entourage, de temps en temps, lui semble... vivre dans un autre monde.
Donc, ça nous rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si moi, à un moment donné, quand je lisais, quand il y a eu tous ces gens autour d'elle qui commencent à venir, et la pièce, elle commence à se remplir de gens, et puis chacun raconte son histoire. Il y en a qui racontent leur vie, il y en a qui rigolent. Ça m'a rappelé une chanson. Je vous propose de l'écouter.
Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi. Jamais, 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 tu nous quitteras.
Au bout d'une longue absence, que dis-je, au bout d'une éternité de vide, de silence, des cris parviennent à mes oreilles, des cris éparpillés, aux sonorités variées, des lamentations, des jérémiades, des exhortations de femmes, et ce qui pourrait bien être des échos juvéniles, des pleurs d'enfants. Les hommes devisent entre eux, reconnaissables, eux, à leur voix, lézardée mais toujours perçante. Je les imagine quand ils parlent, toujours inspirant de l'air et bombant le torse pour asséner quelques petites vérités laides et son teneur. Puis au timbre des voix, de devenir presque discernable, probablement ils règlent les détails de mon inhumation. On ne sait jamais, se disent-ils, peut-être serais-je enterré le même jour, le lendemain, se demande-t-il, en prévoyant de peur d'être pris au dépourvu. C'est extrait du roman La dernière escale de Lounès Rezali, qui est avec nous pour nous parler de ce livre un peu intime, personnelle, mais également qui peut aussi mettre à la laisse le lecteur, parce que c'est pas toujours facile de lire des choses tristes, de lire des choses sur la mort Lounès Rezali.
Ce n'est pas triste, hein, ce n'est pas une mort triste, il n'y a pas de tristesse. C'est elle-même qui raconte un petit peu ses derniers instants. Peut-être ça va dans le sens de la littérature un peu fantastique, celle qui décrit là où le personnage lui-même décrit sa propre mort. Ce n'est pas là dans ce livre, il ne transgresse pas la temporalité de la vie pour rentrer dans l'espace de la mort tout à fait, mais il est quand même le personnage est dans les vapeurs de la mort. Donc c'est un peu dans le sens auto thanatographique, comme dirait Jacques Derrida. Donc c'est le fruit de l'imagination, c'est le fruit de peut-être aussi de lecture, parce que quand on lit des livres, par exemple comme Tolstoï, il y a beaucoup de composantes célestes dans ces personnages et tout. Donc je pense qu'on...
D'ailleurs, vous êtes amateur de littérature russe.
Oui, je lis beaucoup de littérature russe, Dostoïevski, Tolstoï et tout. Donc, ce sont des livres qui parlent plus justement à l'âme qu'autre chose.
Absolument. Et donc, d'ailleurs, il y a des passages aussi assez drôles. Par exemple, quand elle évoque un peu toutes ces conversations autour d'elle, où on oublie qu'elle est là, et donc où elle dit toujours page 24. Ensuite, tout le monde se met à bavarder. Certains se lancent dans la médisance, d'autres dans la moquerie et la plaisanterie, mêlant éclats de rire et exclamations tonitruantes comme s'ils étaient à une fête joyeuse. Cela me contrarie évidemment. J'avoue que je veux sur le coup changer de posture et leur tourner le dos. Je suis désespérée de ne plus avoir la force de rouspéter. Je veux que ce supplice s'arrête, mais si je dois moi-même cesser d'exister dans ce monde, à défaut de m'en échapper par un autre moyen. Je me sens vexée plus que jamais par la nature de cette conversation. C'est vrai que ça prête à sourire parce qu'effectivement, souvent, dans bien qu'elle ne soit pas encore morte, hein, ouais. Parce qu'on va se rendre compte après, ouais. Au milieu vers le milieu du roman, qu'il y a une décision à prendre, etc. Faut-il l'emmener à l'hôpital ou la laisser mourir tranquillement? Mais on retrouve un peu, on se reconnaît dans ces scènes où les gens y viennent. Au début, on est un peu triste et tout. Mais après, les gens, la vie reprend très vite le dessus et les gens commencent à bavarder de leur quotidien, commencent à faire de raconter les uns sur les autres et donc c'est connaissable, oui.
Dans ce cas précis, il y a des cas, donc il y a de l'expérience. On sait que chez nous, ces derniers temps surtout, on accompagne mal le mourant. Il y a beaucoup moins de, je ne sais pas, de recueillement, il y a beaucoup moins de silence, il y a beaucoup moins de...
Moins de respect.
De respect. Donc
justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'était une façon aussi de critiquer un peu les mœurs de la société qui commence un peu à changer, à un peu d'aider, à un peu banaliser les choses?
Oui, dans un sens. J'ai imaginé, je ne l'ai pas imaginé,
on l'a vécu.
Hein. Ces derniers temps surtout, avant ce n'était pas comme ça. Avant, il y a quand même une sérénité.
Il y a le recueillement, c'est pour ça qu'on parle de recueillement.
Exactement, il y a l'accompagnement, le recueillement. Il n'y avait pas, par exemple, les pleurs. Tonitruant, les pleurs avec une grande voix.
Vous êtes sûr qu'avant il n'y avait pas les pleureuses justement qui viennent, qui...
Je ne pense pas. Je ne pense pas avec par exemple nos grands-parents par exemple et tout. Je ne pense pas. À l'époque il y avait
de la retenue.
Il y avait de la retenue. Il y avait le respect. Il y avait une certaine compréhension, une certaine devant cette chose qui est cosmique. Il y a quand même une compréhension, il y a une humilité à regarder une sérénité, une certaine sérénité. Il se peut que ce soit les contes qui nous ont fait cette sérénité. Il se peut que ce soit parce que c'est l'école, là, c'est une école aussi, les contes, les anciens contes. Maintenant, il n'y en a plus. Donc,
ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les contes nous préparent à ce genre de situation ?
Les contes, c'est une littérature orale, donc ils nous préparent, ils nous émancipent en quelque sorte. C'est un peu comme la littérature écrite, c'est la même chose.
La mort dans les contes, elle est représentée comment ? Comme un voyage ?
Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Bon, il y a notre islam, l'islam de chez nous, hein, l'islam d'abord, et il y a une sorte de... Par exemple, ma grand-mère, je me souviens, ma grand-mère, quand elle parle de la mort, elle dit, elle assimile à un mariage, à son mariage. Elle dit que le beau, elle parle du bon Dieu, bien sûr, viendra me chercher. Donc, c'est un peu dans ce sens. Il y a une grande sérénité.
Est-ce que dans la langue d'origine, c'est-à-dire, par exemple, en kabyle, les mots ont une autre signification? Quand vous le traduisez, par exemple, le beau qui vient nous chercher, ça donne une autre... en kabyle, ça donne une autre dimension.
Pas spécialement en kabyle. Bon, en kabyle, mais aussi dans l'algérien, c'est la même mémoire collective, hein, c'est la même chose. Quand on y va, par exemple, les chlefou un peu partout, on retrouve les mêmes à l'origine.
Les mêmes formules.
C'est les mêmes formules, c'est la même mémoire collective, c'est la même chose. Il n'y a pas une grande différence. Simplement, avant, on racontait des choses du genre, pas spécialement du genre. On raconte un peu de tout, ce qui a fait...
Mais la foi est importante dans toutes les... parce que les gens qui croient, évidemment, qui ont une foi très forte, qui, pour eux, la mort, la vie n'est qu'une étape, mais la mort, c'est aller justement dans un autre monde où tout est plus beau et tout est plus... Et on va à la rencontre de Dieu. C'est plus facile à accepter.
Oui, la foi, c'est une façon de régler ce genre de questionnement. Mais depuis la nuit des temps, c'est la troisième question qui est venue après celle de la survie alimentaire, après celle des agressions extérieures. C'est venu donc les réflexions d'ordre cosmogonique ou cosmique. Donc après, bon... À l'époque, donc avant, c'était des lieux parfois fétiches qu'on érige, une façon de voir cette chose-là avec beaucoup plus de sérénité. Après, il y a les religions qui sont venues, donc on a gardé certaines choses, certaines pratiques, certains rituels, mais on a adopté aussi la religion qui nous aide, bien sûr, dans un certain sens. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est depuis la nuit des temps, l'être humain, par exemple, a tenté à travers l'art surtout de comprendre cette chose-là. Par exemple, il y a les arts plastiques, il y a beaucoup de symboliques de la mort, et il y a par exemple les anciennes tragédies grecques, là où on donne la parole carrément à la mort, même si la mort est faite de silence, on lui donne la parole. Parfois, ce sont des personnages qui sont déjà morts et qui continuent à vivre parmi les vivants. Donc, on a tenté par tous les moyens possibles de comprendre ce petit bout de néant ou ce néant qui est la mort. Donc,
c'est un des mystères qui nous fascine et nous taraude depuis la naissance. Alors, je disais tout à l'heure qu'à un moment donné dans cette histoire, justement, on se pose la question, et je pense que ça aussi c'est une question de sociologie, puisque dans un petit instant, on va parler de sociologie, l'importance des sciences humaines, pour un peu répondre aux questions qui secouent les sociétés. Vous parlez, est-ce que c'est justement, vous avez voulu poser la question, faut-il ou non s'acharner? Parce qu'à un moment donné, donc, le fils aîné décide de l'emmener à l'hôpital alors qu'elle est presque à l'article de la mort. Et puis il y a cette dame, évidemment on apprend par la suite, c'est elle qui finit par nous dire que c'était sa meilleure amie, son amie d'enfance, qui est donc une vieille dame qui s'oppose et qui dit qu'il faut la laisser tranquille, partir chez elle, entourée de ses enfants. Vous vous posez cette... est-ce que c'est à bon escient que vous vous posez cette question? Est-ce que faut-il s'acharner ou laisser les gens partir tranquillement et sereinement?
Ce sont deux esprits différents. La première, c'est les anciens qui ont toujours vu la mort comme une fusion avec la nature, comme quelque chose de naturel, comme une suite, un aboutissement de la vie. Donc ça ne sert à rien de s'acharner, ça ne sert à rien. Il y a la nouvelle génération avec la médecine, avec beaucoup de qui est justement, qui peut-être que c'est pas tout à fait le mot s'acharner, mais qui essaye par tous les moyens possibles, donc jusqu'au dernier moment, de tenter de quelque chose jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant.
Vous restez avec nous, bien sûr, Luna Sirzali. Vous nous parlez de ce roman, La Dernière Escale, paru aux éditions France Fanon, qu'on trouve dans les librairies. Vous avez déjà fait des rencontres, d'ailleurs, avec le public. Je crois que c'était à la librairie Chérie de Tizi Ouzou et dans d'autres librairies. Vous avez participé même au festival de Boulima, c'est ça
Non.
Quelle a été la réaction du public?
Je pense pour ce troisième roman, ça a été quand même une réaction assez bonne, je dirais. C'est-à-dire les deux premiers, parce que...
Justement, on va revenir tout à l'heure aux deux premiers. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions? Est-ce que les gens vous ont posé beaucoup de questions sur...
Il y a beaucoup, par exemple, la librairie Chir de Tizi Ouzou, il y avait beaucoup d'émotions parce qu'il y avait quelqu'un qui a perdu sa mère et tout. Donc il y a des questions de ce genre. Donc parfois elle suscite effectivement de l'émotion, surtout de l'émotion.
Allez, on va évidemment vous retrouver tout à l'heure. On va essayer d'être en contact avec Mohamed Mabtoul, qui est donc un des coordinateurs de ce premier salon des sciences sociales à Oran. C'est un salon international où il y a des participants, des chercheurs qui viennent de plusieurs pays. On en saura un peu plus tout à l'heure dans un petit instant. Voilà, magnifique moment avec la voix de Emel Djiloul Brahimi qui reprend ici une chanson Retro de Jamel Alem. Évidemment que lui aussi nous a quittés et qui nous manque énormément.
Ouais.
Alors sans plus tarder, nous sommes donc en liaison avec Mohamed Mabtoul qui va nous parler de ce premier salon des sciences sociales à Oran. Mohamed Mabtoul, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes évidemment sociologue, chercheur et vous êtes coordinateur un peu, vous êtes à l'initiative même de ce premier salon des sciences sociales qui va se dérouler donc à Oran, à l'université, c'est bien, donc à l'université Mourad Senli de...
Oui, c'est le campus Mourad de Taleb, oui.
Voilà.
Exigez-moi, oui, c'est ça, exactement.
Du 19 au 21 novembre.
Oui, exactement.
Alors évidemment, il y a d'autres, vous avez d'autres partenaires hein, avec vous qui organisent l'unité de recherche en sciences sociales et santé, le GRAS, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est l'unité, c'est mon unité, oui.
Votre unité, le Centre de recherche en études maghrébines, le CEMA et le CRASC.
Oui. Oui.
Et alors, je sais que vous êtes très enthousiaste parce que vous êtes quelqu'un de passionné. C'est une rencontre, c'est un événement important, Mohamed Mobtol.
Allô?
Oui, je disais que
oui,
c'était pour
un événement exceptionnel parce que il va réunir plus de 130 intervenants dans les 11 disciplines en sciences sociales, le droit, l'économie, la philosophie, l'histoire, la psychologie, l'anthropologie, etc. et de toutes les régions d'Algérie, mais aussi de l'étranger. Donc nous aurons des amis tunisiens, il y aura des Français, un Américain. Donc c'est vraiment une rencontre, au sens de Frantz Fanon, une rencontre qui doit permettre, au fond, de revisiter de façon critique et pédagogique l'histoire des sciences sociales, les postures des sciences sociales et le terrain des sciences sociales.
Alors, je précise, qui ont été un peu abandonnés, monsieur Mobtol, dans nos sociétés.
Oui, totalement. Aujourd'hui, il y a une dépréciation structurelle des sciences sociales dans notre société. Nous sommes un peu la petite cerise sur le gâteau. L'importance des sciences sociales, pourtant, c'est vous savez, les sciences sociales nous donnent de la lumière sur les faits sociaux. Elles nous permettent de dévoiler les enjeux sociaux, culturels, politiques, économiques. Elles nous permettent de mieux comprendre les réalités opaques, évidentes, immédiates. On va au-delà.
Parfois, elles permettent même d'alerter sur des maux de société bien avant tout le monde, parce que ce sont des sciences qui savent traduire les signaux et les indicateurs. Et elles sont plus que importantes, elles sont essentielles, même pour la bonne gouvernance.
Oui, totalement, totalement. C'est-à-dire que il faut reconnaître aujourd'hui, reconnaissant tristement que notre société reste profondément sous-analysée. Et vous savez, le développement n'est pas lié à l'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et rester dans le sous-développement. C'est l'analyse de la société, la compréhension de la société qui sera possible au pouvoir, aux différentes politiques étatiques, publiques, de déceler les failles, les limites, de connaître l'environnement. Vous savez, je vais donner des exemples précis. Un hôpital, on ne peut pas le mettre n'importe où, n'importe comment. C'est connaître les conditions économiques, sociales, culturelles de la région. Donc c'est redonner du sens au local, comprendre le local, pas dans une optique centralisatrice, verticale. Nous sommes dans la verticalité aujourd'hui, alors qu'il faut revenir à la compréhension de l'intérieur du local. Et ça, on est notre société. Vous savez, une société n'est pas une cruche vide. C'est pas une cruche vide qu'on remplit de connaissances, d'attitudes ou de moyens. La société a ses propres référents, a sa propre manière de fonctionner, son propre langage, ses propres stratégies, ses contraintes. Il faut restituer le système de contraintes des acteurs, des gens. On ne connaît rien sur les métiers. Qu'est-ce qu'un coiffeur aujourd'hui, un soudeur, un boulanger, la consommation de viande, que représente-t-elle dans une société? C'est quoi la consommation? Qui consomme? Pourquoi? Donc nous avons besoin de réunir des équipes pluridisciplinaires, un économiste, un sociologue, un psychologue, un démographe, pour comprendre un peu ce que recouvre le sens de la consommation alimentaire, etc. Donc les sciences sociales nous permettent d'aller au-delà de l'expertise. On a beaucoup d'experts, et l'expertise reste dans l'immédiateté, dans l'évidence. Ils parlent de la société sans la connaître. Et c'est ça le drame. Mm-hmm. Le drame, c'est que si on ne connaît pas notre société, si on ne connaît pas profondément notre société, nous resterons dans l'ignorance, nous resterons dans la greffe, nous resterons dans l'imposition, etc., de mesures qui ne correspondent pas très peu au système de contraintes et des attentes des gens. Les populations, c'est important de comprendre leur logique, leurs contraintes, leurs rapports sociaux, etc. C'est ça l'essence sociale, dans leur multiplicité, hein, et dans les différences d'appréciation.
Alors justement, ce salon, il sert à ça, il sert d'abord à faire connaître c'est quoi l'essence sociale et c'est quoi leur utilité, c'est quoi leur importance. Et deuxième objectif, c'est que vous, vous êtes un homme de terrain, vous êtes aussi un militant de votre cause, donc l'essence sociale, souvent, vous êtes un contributeur d'ailleurs même dans la presse écrite, vous dites que malheureusement, il y a aussi un éclatement de tous les travaux de recherche. Il n'y a pas de lien entre les uns et les autres. Chacun travaille dans son coin.
Ah oui, vous avez raison. C'est un objectif très important, madame. Il y a des travaux, il y a des îlots qui travaillent, il y a des gens qui ont travaillé. Mais c'est éclaté, c'est dispersé. Nous n'avons pas une revue de vulgarisation qui aurait permis de mettre en contact X, Y, qui travaille sur, on ne sait pas qui travaille sur quoi aujourd'hui. Nous sommes dans l'opacité la plus totale. L'opacité la plus totale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons besoin de connaître, d'avoir une cartographie des productions scientifiques des uns et des autres pour créer des réseaux, pas pour dire que c'est mieux que Y, mais pour créer des réseaux entre nous, des petits réseaux. Et nous, dans l'unité de recherche, on avait travaillé avec des médecins, des pharmacologues, des biologistes. Il faut aussi...
Parce que votre spécialité, c'est la santé, hein, monsieur Meptol.
Oui, santé, maladie, médecine, 30 voilà. ans. 30 ans de travaux de recherche sur ces aspects-là, 30 ans.
Et je souligne la spécialisation, parce que dans les sciences sociales, et notamment la sociologie, la spécialisation est importante.
Oui, c'est important. Au départ, je pense que la spécialisation... Mais il faut aller au-delà de la spécialisation. La santé, c'est global. C'est toute l'expérience globale des gens. C'est la vie des gens. Mm-hmm. Donc, la vie des gens recouvre des aspects économiques, des aspects sociaux, des aspects culturels, des aspects politiques. Donc, il faut effectivement nous réunir pour discuter, non pas dans une logique techniciste spécialisée, mais dans une logique beaucoup plus articulée. Il faut, vous savez, la complexité d'un fait social, ce que dit Edgar Morin, la complexité mérite de travailler ensemble. On a besoin de sortir de notre territoire disciplinaire, de notre petit territoire disciplinaire, qui nous donne une image très réduite de la réalité. Je travaille avec des médecins, pas pour les médecins, mais je travaille avec les médecins, mais pas pour les médecins, j'ai mon opinion, je travaille avec eux, je les forme aussi au regard sociologique. Donc c'est important de connecter nos résultats, nos méthodes. C'est pour ça qu'il y a toute une session, comment appréhender le réel, le terrain. C'est quoi le terrain des chercheurs, des sensors? Comment ils travaillent? Les statistiques, les entretiens, les trajectoires de gens, l'observation, l'ethnographie. Donc on a besoin d'observer finement, précisément, un pan de la réalité, l'étudier dans sa profondeur.
Troisième objectif, monsieur Meptol. Troisième objectif, pardon, monsieur Meptol, de ce salon, c'est aussi créer des vocations et faire un travail de transmission par rapport à la jeune génération qui souvent choisit la filière par défaut. On va en sociologie ou en démographie ou en psychologie par défaut parce que les autres filières sont plus exigeantes ou voilà.
Ah, vous avez raison, c'est un point central. Et le salon, c'est ça. C'est capter des vocations, capter des passions, capter des gens qui aiment ces disciplines. Nous recevons aujourd'hui des étudiants en sociologie qui nous disent, ça c'est une douleur atroce, c'est une grosse douleur. On m'a jeté en sociologie, on m'a jeté en psychologie. Donc, c'est pas le résultat du bac qui donnera sens à la passion. C'est pas le résultat du bac qui permettra une orientation précise. Vous savez, j'étais avec des amis au Sénégal, je viens d'arriver de Montpellier d'un colloque sur l'alimentation, et au Sénégal, les meilleurs étudiants, c'est les sociologues, la meilleure note, il faut avoir une prévention pour faire sociologie. Donc vous voyez comment on crée des hiérarchies sociales et scientifiques entre nos disciplines, et ça crée des ruptures, ça crée des dominations aussi entre les uns et les autres, des disciplines nobles, les autres qui ne sont pas nobles. Alors qu'aujourd'hui, les sciences sociales, bien sûr qu'on est nombreux, on est nombreux. C'est vrai qu'on est plus nombreux qu'en sciences exactes. Mais aujourd'hui, les sciences sociales, pour nos sociétés africaines, nos sociétés arabes, ont besoin aujourd'hui de sciences sociales. On peut pas concevoir un programme sanitaire, un programme économique sans connaître les gens, ce qu'ils pensent, comment ils pensent et pourquoi ils pensent.
Et même construire, on peut pas construire sans connaître.
Comment?
J'ai dit même construire, même pour l'habitat, on peut pas concevoir.
Ah oui. Alors c'est fondamental. Là, c'est fondamental. On peut pas construire. L'architecte, je respecte son art, c'est de l'art. L'architecture, c'est important. Mais il a besoin de l'œil, du regard du sociologue, hein, parce qu'il faut s'adapter aux gens. Quel type de logement on a besoin en Algérie? Quel espace? Pourquoi? Où construire? Comment construire? Or, on est dans le béton aujourd'hui. C'est le béton le plus standardisé possible. Quand vous voyez nos villes, c'est les mêmes villes, alors que l'histoire de la ville, la spécificité de la ville, le patrimoine de la ville n'apparaît pas dans nos constructions.
Et souvent, l'habitat, Monsieur Mapto, j'insiste un peu sur ça pour dire un peu, pour insister sur l'importance de la sociologie. On peut pas construire sans tenir compte des us et coutumes. Nous n'avons pas les mêmes us et coutumes, par exemple, que les Occidentaux. Nous, quand on fait de la cuisine, le couscous, il faut prendre du temps. Il y a des grandes jufnas. La tabouna, elle est pratiquement dans toutes les maisons. Donc, il faut peut-être concevoir aussi des cuisines qui correspondent à notre façon de vivre. Juste un exemple.
Totalement, madame, vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des logiques de greffe. On greffe, on fait de la greffe, mais la mauvaise greffe. C'est-à-dire que la belle greffe, c'est tenir compte, c'est aboutir à prendre en considération, revaloriser les logiques des populations, redonner du sens, reconnaître leur histoire, leur identité plurielle, reconnaître qu'on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes logiques, heureusement, dans chaque région a une histoire particulière qu'il faut revaloriser, qu'il faut donner du sens. Et on ne peut pas rester dans le standard, dans le vertical, dans une sorte de généralisation qui n'aime rien.
Mohamed Mouktoul, il y a le temps qui passe très très vite. Juste pour rappeler, donc c'est un salon avec des ateliers, avec des communications. Ah oui. Comment ça va se passer?
Alors, il y aura le panel 1, c'est le science du langage, langue et société, toute la question des langues, les enjeux autour des langues, etc. Le panel 2, c'est sciences sociales, santé et population. Et là, c'est important, 1 million de naissances, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, 1 million de naissances? Donc, comprendre aussi les aspects démographiques et la santé de la population, le diabète qui prend une ampleur considérable, les maladies chroniques. Donc, comprendre un peu pourquoi il y a ça, et comment...
L'Algérie est classée 6e mondiale dans le diabète.
Et malheureusement, ça aussi, c'est un problème terrible. Bon, on travaille sur la santé depuis 30 ans. Peut-être que le curatif, le médicament, l'hospitalocentrisme ont pris le pas sur la belle prévention sanitaire. Qu'est-ce que c'est? La prévention, c'est pas simplement la vaccination. La prévention, c'est discuter avec les gens, c'est aller vers les gens, redonner du sens au débat sur la santé. Les gens aussi ont des idées sur la santé, c'est pas des idiots culturels.
Alors, d'autres ateliers, monsieur Mouktoul?
Comment?
Quelles sont les autres activités? Alors, du salon?
Après, il y a sciences sociales et santé, passé et présent, toute l'histoire. L'histoire de la société, comment comprendre le présent à travers l'histoire. Le panel 4, c'est sciences sociales et acteurs sociaux, les femmes, la famille, les chercheurs et les artistes. Alors, j'ai oublié de dire que le salon ne sera pas exclusif aux sciences sociales. Nous intégrons dans notre salon les artistes. Le documentaire de Bourdieu sur la sociologie d'un sport de combat. Donc, on va se déplacer au théâtre régional de Rang, on va se déplacer à la cinémathèque. Et on aura un hommage visuel à tous nos collègues disparus, décédés en 2020-2021.
Et l'université algérienne a produit de grands, grands sociologues. On peut donner quelques noms, Elkins, Boukhobza.
Oui, il y a Elkins, il y a Liabès, on a de grands sociologues qui ont marqué l'histoire. Et malheureusement, c'est l'oubli. Notre patrimoine sociologique va vers la mort, on oublie tout ça, alors que on ne peut refaire, on n'est pas Zorro pour découvrir des choses qui ont été découvertes avant nous. Donc c'est important de revisiter le savoir, les savoirs produits par nos aînés.
Mohamed Nobtol, est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que les gens qui, par exemple, qui nous écoutent...
Il faut rappeler fortement, ce n'est pas un colloque. Ce n'est pas un colloque réservé aux chercheurs. C'est pour ça qu'on a dit salon. La notion de salon, c'est l'ouverture
à tout le
public. Aux tout venants, aux étudiants, on a invité les cadres, aux lycéens. Donc, c'est ouvert à toutes les catégories sociales de la population. C'est un salon. C'est
la... Donc, on rappelle la date, justement, pour ceux que ça intéresse. Alors, en tout cas, moi, si j'étais à Orange, j'y serais tous les jours. Donc, il y a... ça se passe donc le 17 et le... du 19, pardon, au 21 novembre.
Le samedi 19 novembre au 21 novembre inclus. Trois jours de débat, trois jours de discussion, trois jours de convivialité. Le 19, samedi, dimanche, lundi. Le samedi après-demain, voilà.
Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir bien après le salon pour revenir sur cet événement et pourquoi pas reposer la thématique de la sociologie et des sciences sociales dans notre pays. Merci beaucoup, Mohamed Mobtol. Merci.
Bonne journée. Merci, madame.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'est très tentant hein, de faire un tour à Oran, justement vous, Lounès Rezali, parce que l'écrivain est quelque part un observateur, c'est comme un sociologue de sa société, hein, vous avez la même fonction.
Oui, je lis un peu de la sociologie, on peut pas ne pas lire d'ailleurs de la sociologie. Si on avait fait justement les sciences humaines hein, d'une façon générale, si on avait... On ne serait pas dans ce que nous sommes aujourd'hui, y compris par exemple dans la religion, y compris dans d'autres domaines, effectivement, mm-hmm. De tous les autres domaines de la vie.
Je rappelle vos autres, les deux autres romans que vous avez écrits, qui sont tout à fait différents de ça, hein, puisque vous avez écrit un roman sur L'appel de la montagne, qui raconte donc un épisode sur la guerre de libération.
C'est l'histoire d'un personnage qui j'ai voulu banal, mm-hmm. c'est-à-dire il n'a pas versé dans la politique ou je ne sais pas dans une idéologie quelconque. Mais l'histoire l'a poussé un petit peu donc à être aux premières loges le 1er novembre 1954. Mmh. J'ai mis d'un côté toute la panoplie de ceux qui ont fait le colonialisme, le Bachara, le Caïd, les gendarmes, le commissaire et tout. Et de l'autre, ce qu'on appelait à l'époque, parce que c'est une période, les choses se déroulent dans une période un peu particulière, c'est entre 1945 et 1954. C'est une période où l'histoire s'est accélérée, où les destins se sont entrecroisés.
Inspiré de faits réels.
Il y a des choses. On ne peut pas écrire sans s'inspirer de...
Et puis, il y a le rocher de l'Hécatombe. C'est un peu particulier comme sujet, puisque ça raconte le massacre d'un village en Kabylie, hein, du côté de Etmoul.
Non, Etsaïd, donc c'est du côté de Misrana, du côté de d'Eithwegnoun. Ça faisait partie à l'époque d'une tribu qui s'appelait...
Par les janissaires.
Oui, c'était des...
Évidemment, parce qu'il y avait toujours ces histoires d'impôts qu'il faut payer à l'époque ottomane. Et donc, il y avait ce village qui n'avait pas payé ses impôts.
Ce n'était pas véritablement des impôts, c'était une amende. Parce que l'histoire, le remonte à... C'est une histoire qui s'est donc déroulée en 1825. Et l'histoire, elle remonte à 1818, donc 7 ans avant. Quand il y avait la marine espagnole qui a détruit la marine turque au large de Béjaïa. Et pour reconstruire leur arsenal, les Turcs à l'époque, c'était l'Ojak d'Alger, c'était un peu l'équivalent des députés aujourd'hui. Ils ont décidé d'aller couper du bois, d'abord dans la forêt de Yakouren. Ils ont refusé. Il y a la tribu parce que c'était divisé en tribus à l'époque. Et ils ont tenté avec les Etjinès, ça n'a pas marché. Ils ont tenté avec les Etwignous, ça n'a pas marché. Et puis ils ont choisi par la suite, 7 ans plus tard, ils ont choisi le village Etsaïd pour des raisons stratégiques. Il y avait un massacre et il y a toute une mémoire collective.
Donc le rocher de l'Hécatombe et l'appel de la forêt, toujours.
Non, la montagne.
De la montagne, pardon, l'appel de la forêt, c'était quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Lounès Rezali, pour en tout cas votre disponibilité, votre gentillesse. On aura l'occasion de vous retrouver dans d'autres occasions. Voilà, c'est fini pour cette première partie de l'émission. On vous retrouve tout à l'heure.
Littérature, cinéma, La République des Arts, présenté par Touliaï.
Voilà le Malouf, aujourd'hui on en parle, mais peut-être avec des spécialistes, parce que le Malouf, qui est un genre musical qu'on peut classer dans musique andalouse, puisque ça vient d'Andalousie, et notamment de Séville, à l'époque évidemment où l'Espagne était sous domination musulmane, a ses propres règles, a ses propres modes, a ses propres, même s'il y a beaucoup de ressemblances avec la musique Sanaa ou Rnati, mais donc le Malouf de Constantine à ses propres règles. Et aujourd'hui, pour en parler, nous recevons un représentant de l'association Maqam, l'association culturelle et musicale Maqam, vient de retrouver un bachar, puisque c'était une personne qui l'avait précieusement gardé et qui ne voulait le confier qu'à des professionnels, qu'à des gens qui ont pour souci de préserver le patrimoine musical de Constantine. Alors j'accueille pour en parler aujourd'hui dans la République des Arts avec beaucoup de plaisir l'Hed Aliya qui représente l'association. Bonjour.
Bonsoir madame.
Ça
bonsoir
va
à tous les auditeurs.
Vous allez bien?
Ça va,
vous avez fait un bon voyage de Constantine?
Très bon voyage.
Il fait toujours aussi bon à Constantine?
Un peu froid.
Un peu froid, ça va,
ces deux derniers jours.
On ne peut pas se plaindre, on a eu un été qui a duré 6 mois.
Il est plus qu'un dialecte, c'est vrai.
Comment vont les ponts suspendus?
Ils sont toujours suspendus, ça va.
Il y a toujours autant de... Est-ce qu'il y a autant de concerts, de Malouf?
Ça reste conjoncturel, ça reste par rapport à des dates bien précises, des dates en relation au Ramadan et ce qui s'ensuit.
Alors, avant toute chose, on va peut-être parler de votre association Maqam, qui est une association qui existe depuis quelques années déjà.
Oui, depuis 1995 précisément.
Voilà, donc elle a quand même des années d'expérience, notamment sur le plan de la formation.
Exactement, c'est notre cheval de bataille.
Voilà, la formation, mais la formation rigoureuse.
On essaie, on reste des musiciens amateurs, on reste surtout bénévoles et on essaie de donner le meilleur de nous pour sauvegarder le patrimoine. Entre autres grâce à la formation, mais aussi grâce aux enregistrements des parties qu'on arrive à terminer professionnellement, on va dire.
Et les jeunes sont toujours aussi nombreux à apprendre, à vouloir apprendre la musique du Malouf?
La vie d'une association, surtout la nôtre, sans aucune fausse modestie, c'est réellement une famille. Donc comme toute vie d'une famille, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plus de membres, il y a un peu moins de membres, c'est vivant. Par exemple... Au jour d'aujourd'hui, on est à 90 membres à peu près, répartis sur 5 classes que compte l'école de la formation, répartis sur 5 classes de niveaux différents, du niveau débutant jusqu'à la classe représentative qui est la dernière classe, la classe A.
D'accord. Et ça commence à quel âge? À quel âge on peut...
Quand on veut.
Dans une association comme
quand ça. Quand on veut de la musique. Ça reste très spécifique à chaque personne. On a des enfants à l'âge de 7 ans qui aiment beaucoup. On a des enfants un peu plus avancé dans l'âge et qui ne se voit pas vraiment faire de la musique. Donc ça reste un aspect assez relatif, l'âge. Mais on va dire entre 7 et 8 ans, ça, c'est l'âge idéal pour démarrer la musique.
Alors la musique savante algérienne, c'est comme ça qu'on appelle dénomination, la musique andalouse, ou les musiques andalouses, parce que moi je préfère dire les
plusieurs
musiques,
écoles.
Parce que voilà, plusieurs écoles.
Généralement,
On voit, il y a toujours l'apprentissage de la musique est toujours associé à un instrument. On apprend à jouer un instrument. C'est le cas dans votre association?
Nous avons toujours cette même question qui est récurrente. C'est la question que posent les parents généralement par rapport à l'instrument qu'ils vont choisir pour leurs enfants. Ben, tous nos encadreurs, que ce soit le président de l'association, M. Melk Mounji, Shemseddin, ou bien tous les encadreurs disent la même chose. C'est un peu à l'enfant de choisir son instrument. On va plus le pousser à choisir tel ou tel instrument. Il va pas se trouver dessus. Il va pas vouloir continuer, donc il va arrêter. Par rapport, l'utilisation la plus simple, c'est la mandoline. Donc on va commencer généralement par la mandoline pour évoluer ou non. Pour ce qui est, pour ma part, je suis resté joueur musicien de mandoline. Donc on va évoluer vers d'autres instruments, généralement le hautbois ou le violon.
On apprend toujours pas avec le solfège.
Pas au sein de notre association, pas encore.
Pas encore, parce que la musique, elle n'a pas encore été transcrite totalement.
C'est un grand débat.
C'est un débat qui dure depuis des années. Moi, je me rappelle à l'époque d'Ahmed Sirri déjà, qui était un des instigateurs justement vous avez dit que c'est un débat, ça veut dire quoi? Vous êtes d'accord, pas d'accord?
Bien sûr que je suis d'accord. Oui. Vu qu'on ne peut pas mieux garder un morceau. D'accord, on va l'enregistrer, on va le mettre sur YouTube, il y a les plateformes, il y a tout ce qui s'ensuit, il y a les moyens numériques. Mais comment un musicien étranger, comme un musicien, même algérien, un musicien qui n'est pas dans le domaine, qui n'est pas dans le domaine du Melouf, par exemple, mais de Sana ou de Bandati, voudra jouer ce morceau, comment il faudra? Il voudra passer par toute une étape de il va déchiffrer les notes, note par note. Donc la transcription est obligatoire. Maintenant, le débat, c'est par rapport transcrire quoi? Transcrire quel morceau, quelle version? Est-ce que c'est cette version qui est l'originale ou non? Parce que, comme les musiques n'ont pas été retranscrites depuis longtemps, depuis jamais. Donc ça reste l'évolution a été très perpétuelle. Donc chaque musicien a joué ce morceau d'une telle manière, l'autre l'a joué d'une
autre. Peut-être transcrire la plus classique, la plus ancienne déjà.
La plus ancienne, c'est exactement, vous m'avez permis de rebondir sur ça, c'est exactement notre... méthode de recherche, non, le mot est trop grand, mais c'est modestement notre méthode de travail, on va dire. Mm-hmm. Parce que pour revenir, c'est comme, je vous l'ai dit l'autre fois au téléphone, c'est comme par rapport à l'étymologie, l'étude de l'étymologie, on va revenir à chaque fois aux origines les plus anciennes d'un tel mot, d'une telle langue morte, pour essayer de retrouver sa version la plus originale, ou bien la version du mot la plus originale. Donc, quand on remonte aux enregistrements les plus anciens, on va retrouver la façon de jouer qui se rapprochera le plus de l'original.
Revenons maintenant au Malouf. Le Malouf existe évidemment à Constantine, il existe à Annaba, dans d'autres villes aussi de l'Est. Il existe même en Tunisie.
C'est
peut-être rare parce qu'on dit qu'il y a le Sana'a et le Ghirnati en Algérie, mais en Tunisie, ça s'appelle comme nous, le Malouf.
En Libye
d'ailleurs,
aussi.
Les plus connus, c'est Firqa Rachidia pendant des années.
C'est une des plus vieilles associations.
Ils ont encore une autre façon d'interpréter les choses sur un autre mode. Mais
Plus oriental.
Et même en Libye, je crois. Je me rappelle, moi, de ces soirées. Quand on faisait les festivals et puis quand il y avait beaucoup d'interactions entre les pays du Maghreb, il y avait les semaines culturelles.
Exactement.
Et on recevait les Libyens qui portaient la chachia noire avec les Tunisiens avec leur chachia rouge avec leur langue. Voilà. Et c'était des musiques qui se ressemblaient beaucoup. Alors pour le Malouf, pour revenir au mot Malouf, donc il y a plusieurs définitions. Wikipédia dit le Malouf vient ça veut dire composition, il y en a qui disent ça veut dire habitué, mais Malouf ça veut dire on y est
habitué. À entendre ça.
Comment vous définissez le Malouf
comme patrimoine culturel algérien?
Non mais
le mot lui-même, ça reste un mot qui définit une école de musique algérienne. Le mot lui-même, je préfère laisser, parce que dire je ne suis pas spécialiste en étymologie,
oui.
J'en ai pas le vœu. Donc peut-être que c'est une première donnée, première information à lancer, première recherche, parce que déjà définir les origines de chaque mot, les origines de chaque école, pour ensuite redémarrer par rapport à ça, au passé à la musique en elle-même.
Voilà, ça c'est pour un peu situer, pour dire, parce que c'est vrai que c'est très différent, même si c'est parfois les mêmes textes, etc., c'est différent de la façon, Sana'a et de l'école de Tlemcen. D'ailleurs, le mot école est parfois n'est pas admis par tout le monde, on ne parle pas d'école, il y en a qui disent non, c'est la même école, mais
c'est des styles de jeu différents.
Oui.
Mais par exemple, la différence est tellement grande entre le style de Constantine et le style de Tlemcen, qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas une école. Mm-hmm. Le poème, les recueils sont les mêmes, les tobos, les modes sont les mêmes, mais le jeu est complètement différent.
Pourquoi c'est différent? Est-ce qu'on sait pourquoi c'est différent?
Peut-être. Il y a plusieurs données qui rentrent en jeu. Premièrement, l'absence de transcription est une donnée réelle. Donc, l'origine de chaque musique, de chaque style, on va dire, ou école, sans tergiverser sur ça, est un truc. La localisation géographique, un localisé beaucoup plus vers l'extrême ouest, l'autre vers l'extrême est. Donc il y a une richesse géographique Et chaque fois, c'est un melting pot musical qui va ramener, qui va faire évoluer un style musical vers ça ou un autre.
Tout à l'heure, on parlait de sociologie. C'est aussi une question de sociologie. C'est-à-dire, chacun a digéré cette musique qui est venue d'Andalousie et l'a rendue autrement, selon...
C'est une succession d'interventions. Ouais. L'Andalousie n'est qu'un point de départ. D'autres musiciens sont venus directement, mais le Mashallah sont passés par l'Andalousie.
Alors, vous allez nous expliquer c'est quoi ce Bacharaf.
Bacharaf est une pièce musicale, donc sans parole, qui vient introduire une pièce... chanter juste derrière. Donc il y a plusieurs bacharaf différents par rapport aux différents modes qu'on va jouer après.
Voilà, pour ceux qui se demandaient ce que c'était le bacharaf, ben ça c'est un bacharaf. Donc c'est une nouveauté un peu, une nouveauté par rapport au patrimoine retrouvé. Hein.
Exactement, c'est une partie du bacharaf Qamaroun. C'est un bacharaf dont beaucoup de mélomanes.
Alors expliquez-nous pourquoi. On parle beaucoup de ce bacharaf et qui a été retrouvé, donc qui vous a été confié par un particulier qui avait cet enregistrement ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais personne dans le Malouf contemporain n'a joué ce bacharaf.
Je n'ai pas la prétention de le dire, nous n'avons pas la prétention de le dire, mais nous avons fait des recherches. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Plusieurs mélomanes amis de l'association nous ont dit la même chose, chose pour laquelle je tiens vivement à remercier de votre radio M. Mohamed Abdelzer, qui est un mélomane, collectionneur, qui détenait ce disque. Donc pour les auditeurs qui se posaient la question, quel enregistrement? C'est un disque 78 tours du début du siècle. La date exacte, nous n'avons pas, entre 1905 et 1910, on va dire. Joué par Selim Boukbouz, un musicien de Constantine, et c'est une partie du bacharaf. D'autres musiciens peut-être plus pointus dans le genre vont me dire pourquoi 4 minutes, on va retrouver la vidéo sur YouTube, sur Facebook. Le disque 78 tours avait une capacité d'enregistrement qui ne dépassait pas les 3 minutes. Donc par rapport au disque en lui-même, il y avait 3 minutes, la vitesse était beaucoup plus rapide. On a fait des orchestrations pour pouvoir le jouer en groupe, la classe 1 compte 18 musiciens en 105. Donc on a fait des orchestrations pour arriver à 4 minutes et quelques. Un bacharaf, c'est entre 7 et 10 minutes grand maximum, les autres bacharaf. Donc c'est pour ça qu'on a dit partie du bacharaf Qamar.
Et qui est particulier aux autres... ça existe d'autres bacharaf, bien sûr?
Oui, il y en a plusieurs. Chaque mode, comme je vous l'ai dit, c'est une introduction c'est une introduction musicale à la partie qu'on va chanter. Donc par rapport au mode qu'on va chanter, chaque bacharaf... Comme Touchia fait Alger, comme le Mchalia fait le Gharb, chaque bacharaf, chaque mode, un doux bacharaf. D'accord. Donc, Hada Bacharaf Khamaroun, il n'a pas été entendu. C'est une partie. Nous avons pu la récupérer grâce à ce donateur. On l'a enregistré.
Vous l'avez enregistré et vous l'avez enregistré à l'ONDA.
C'est exactement.
Pour le préserver, pour le.
C'est la finalité de tout notre travail. Donc, on s'est rapproché rapidement de l'ONDA pour l'inscrire. Le mot exact, c'est l'inscrire. Oui. Donc, sur la linéa, c'est inscription du Bacharaf Khamaroun au patrimoine culturel musical Constantinople. Donc, c'est une reconnaissance et c'est une immense fierté pour notre association.
Voilà, ça donc pour les, parce que c'est vraiment évidemment pour les, on peut être mélomane sans connaître un peu toutes ces règles, etc.
Exactement.
Voilà, parce que il y a la nouba, il y a les modes, il y a les dans le malouf, il y a combien de nouba?
Dans le malouf, déjà, il y a plusieurs styles musicaux. Quand on dit malouf, c'est l'école de Constantine, mais le malouf en lui-même, c'est le nouba. C'est la nouba. C'est la nouba. Mais il y a aussi d'autres styles, qui sont le haouzi, que sont le mahjouz, que sont le madih ou les chansons attrayées au culte.
Et donc tous ces modes-là, ils ont
les modes sont c'est des modes de jeu, donc c'est des notes, c'est des airs, c'est des temps. Les styles que je viens d'énumérer, c'est des styles à proprement dit. La nouba, c'est la musique classique avec la suite rythmique et ce qui s'ensuit. C'est la même chose à Alger, c'est la même chose à Tlemcen. Reste quelques différences spécifiques. Mais les autres zjil, styles musicaux à Constantin, typiquement pour Constantin.
Alors vous m'avez dit, c'est vrai que pour vous, ce qui est plus important, c'est pas de faire de l'histoire, d'où vient, ça vient, etc. C'est surtout la protection et le patrimoine. Pourquoi? Parce que est-ce que justement ce patrimoine est en danger? Depuis quelque temps, c'est vrai qu'il y a une petite guéguerre sur l'appartenance. C'est vrai que le Maghreb a un patrimoine commun. Tout à l'heure, j'avais évoqué
une culture plurielle,
commune. On a évoqué tout à l'heure le malouf, libyen, tunisien, etc. Mais pourquoi, expliquez-nous, pourquoi c'est important de préserver ce que nous savons faire et de ce que nous avons hérité?
Premièrement, le préserver en tant que tel, avant l'identité. Préserver parce que beaucoup de morceaux ont été perdus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'en est l'exemple vivant. Je tiens à profiter de cette chance pour lancer un appel à tous les mélomanes, tous les collectionneurs qui ont des parties des pièces musicales dans le genre, à aider à les sauvegarder en les partageant au maximum, parce que sinon ces personnes vont mourir, mais ils vont partir, c'est tout un pan qui va partir avec eux, c'est tout un pan de l'histoire culturelle. Par rapport à la protection, on peut protéger notre patrimoine tout en s'ouvrant à l'international. Et nous avons, par exemple, en parlant de transcription, nos amis tunisiens de l'Orchestre National de Musique Andalouse de Tunisie ont pris la transcription, la partition de ce morceau et sont en train de le répéter. Et on aura la chance d'avoir la vidéo de leur répétition très prochainement, pour Michallah.
Donc là, vous nous donnez un exemple, justement, de
protection,
préservation et partage.
On peut associer les deux.
Est-ce que nous sommes très en retard sur la protection de notre patrimoine musical?
Il n'est jamais trop tard.
Non, mais je veux dire,
il y a du travail. On va dire qu'il y a beaucoup de travail à faire.
Heureusement qu'il n'est jamais trop tard. Mais est-ce que nous sommes en retard? Est-ce que nous, par rapport, par exemple, aux pays voisins, est-ce que nous avons pris du retard un peu et que il y a beaucoup de choses qui sont en danger et que
le danger est présent, vu que des pièces ont été perdues, on a des recueils écrits dont on ne connaît pas le chant, on a des pièces comme par exemple ce Bacharaf, beaucoup de mélomanes entendaient ou bien ont entendu parler du mot, du nom, mais ne l'ont pas écouté. Donc, oui, il y a du travail. Nous sommes en retard, de là à dire nous sommes en retard, oui, mais pas énormément, donc il y a du travail à faire. Et alhamdoulilah, on a une telle diversité culturelle nationale que si on met tous la main dans la main, et on va rapidement sauvegarder ce patrimoine.
On le sauvegarde évidemment en faisant de la formation, en ouvrant les écoles, en ouvrant des classes. On écoute un peu ce que vous faites avec, dans votre association, justement l'association culturelle et musicale Maqam de Constantine. Donc comment les petits jeunes chez vous, comment vous les appelez, les petits jeunes, est-ce qu'ils ont des noms?
C'est des membres.
Des membres, c'est des tout. Membres. C'est, c'est pas les poussins, c'est pas
non.
Les...
Non, non.
Donc voilà, allez, on les écoute. Donc c'est ça votre, ce sont vos les plus jeunes donc à, qui apprennent, qui sont en train d'apprendre le métier. Mais on a vu, on a entendu que ils apprennent avec les notes.
C'est une technique qu'on appelle le latin. C'est un très bon exemple que vous venez de passer. C'est durant la fête de clôture, parce que chaque fin d'année, on fait une fête de clôture où on fait passer toutes les classes avec leur programme qui ont préparé durant toute l'année. On vient d'entendre la classe d'initiation, des tout-petits, qui étaient à leur 8-9 mois d'apprentissage. Il y avait des tout-petits qui ne faisaient que la chorale. Il y avait des éléments qui ont pu avancer, qui ont déjà commencé à jouer avec leur instrument. En parlant des différents styles dont on avait parlé tout à l'heure, ils venaient d'entendre le Fiyashiya, qui est une pièce musicale Mnel-Madih, jouer de plusieurs manières, que ce soit à Alger, à l'Ouest ou bien chez nous. Donc c'est un très bon exemple du patrimoine pluriel qu'on a en Algérie.
Mmh. Donc voilà, ça c'est donc le travail que vous faites au sein de l'association, je rappelle, culturelle et musicale Maqam de Constantine. Elle a eu évidemment comme formateur et même bon fondateur des personnalités très importantes comme Mohamed Salah Zelwala, c'est ça?
Exactement, c'était président de
l'association. Président de l'association. Et puis, c'est vrai que pour beaucoup de profanes, quand on parle du malouf, les gens pensent tout de suite à Fergani, Cheikh Mohamed Tal Fergani, Allah yarhamou. On connaît moins les autres grands maîtres qui ont joué aussi un rôle très très important.
C'est normal parce que il y a plusieurs maîtres, Cheikh Hassouna, Allah yarhamou, Monsieur Ben Tabal, Rabbi yarhamou, et encore des chouchs encore plus anciens. Mm-hmm. On revient toujours au problème de l'enregistrement, de la présence.
Dalsouni, par exemple.
Dalsouni, on revient toujours au problème de la formation et des enregistrements. Donc quand on a un maximum d'enregistrements, on est plus présent, donc on est plus visible. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que, par exemple, Cheikh Mohamed Tahar Fergani a marqué de son empreinte dans sa façon d'interpréter les textes
C'est obligatoire, ça. C'est un virtuose du chant ainsi que du jeu. Donc, il a une empreinte, il a une très grosse empreinte, que ce soit sur le jeu du violon, bien sûr, le chant, oui.
En tout cas, merci de venir, d'avoir fait le déplacement de Constantine pour venir partager avec nous ce Bashraf
Kamaran,
qui est un nom d'origine perse.
Et qui, l'origine, c'est un mot perse. Bashraf, c'est une marche militaire. C'est pour ça que quand on va entendre plusieurs Bashraf, ça rappelle une marche militaire saccadée.
Ouais, voilà. Donc voilà, vous savez tout sur le Bashraf, donc qui est une introduction musicale qui introduit donc une
le mode qu'on va jouer.
Voilà. Merci.
Merci
donc
à vous,
je
madame.
Rappelle votre nom, vous représentez l'association Maqam de Constantine. Hadia Alia, merci et bonne chance.
Plaisir, madame. Merci infiniment.
Et rentrez bien.
Merci beaucoup.
Les associations, elles ont un rôle très très important justement pour préserver toutes les traditions, la culture locale, les us et coutumes. Et l'association Les Amis de Miliana, l'association culturelle agriculture Les Amis de Miliana, fait partie également de ces associations très actives à Miliana, perpétuer tout le savoir-faire de la région de Miliana, que ce soit dans le domaine artisanal, dans le domaine culturel et même dans le domaine culinaire, parce que qu'est-ce qu'une société sans ses traditions culinaires? Nous connaissons un peu toutes les spécialités de toutes les villes. Avec nous, justement, Lotfi Kotami, qui est donc membre de l'association, président de l'association. Lotfi, bonjour.
Bonjour Faria, toujours un plaisir d'être parmi nos invités à HN3.
Merci en tout cas ça fait très longtemps que vous n'êtes pas intervenu dans la République des Arts, Lotfi Kotami. Vous, alors ce week-end, ça sera la fête du coin. Le coin, le fameux Sfarjel, de chez nous, c'est la période de Sfarjel. Qui dit période, ça veut dire qu'il y a abondance. Et qui dit abondance, la question s'est toujours posée, comment conserver ces fruits abondants et comment les transformer souvent en confiture, n'est-ce pas, ou en pâte?
Oui, c'est vrai. Bon, Miliana est connue par ses vergers, son nom excellent, le nom du Dakar.
Les cerises et les...
Et l'automne est connu par ses fruits à Miliana, comme le nef d'Allemagne, par exemple, qu'on appelle Mzah, mais aussi le plaquemine, le kaki, mais aussi surtout le coin. Mm-hmm. Nous, on a beaucoup de vergers, il y a beaucoup de cognassiers. On a eu cette idée un petit peu de préserver ces traditions, parce que autrefois, nos grands-mères transformaient ce coin en soit en confiture, pâte de coin, gelée. Sinon, carrément, il y a certains plats sucrés, salés. Voilà, on a eu cette idée un petit peu de garder cette tradition et donner la chance aux artisanes, dont la majorité, c'est des femmes, qui vont exposer avec nous durant cette fête qui va durer 2 jours.
Ah, qui va durer évidemment le 18 et le 19. Et ça se passe au jardin du musée municipal de l'Émirat.
Du musée communal.
Communal.
De Miliana, centre-ville. Il y aura une dizaine d'artisans. Et aussi, on va donner la chance à d'autres artisans.
La confiture de coin ou la pâte, parce que c'est très très bon en pâte. Est-ce qu'il y a une spécificité de Miliana ou vous le faites comme tout le monde?
Alors, nous, on l'appelle Salamoun. Je veux dire Salamoun à cause du saumon, c'est la couleur saumon.
Oui.
La couleur saumon pour la pâte. Bon, on le fait depuis plusieurs siècles. Hein.
Oui.
Il fait partie des traditions culinaires de Miliana. Je veux dire, nous, on est pratiquement toutes les familles, on cette pâte de coin au niveau des maisons. Et puis, on veut transmettre ça à cette nouvelle génération. C'est un autre moyen de conserver cette belle tradition, je veux dire, cette tradition.
Ah ben, ça peut être aussi même une source de revenus, hein, pour les,
oui, bien sûr.
Voilà. Alors, justement, ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de vos activités, hein, l'association Les Amis de Miliana, qui est une association, qui préserve aussi le patrimoine local, hein, et qui, essaye aussi de le vulgariser, de le partager avec les autres régions du pays. Ça se passe bien en ce moment, vous faites beaucoup d'activités.
Bon, oui, on travaille surtout le développement de l'histoire locale. On essaye un petit peu de voyager un peu partout en Algérie. La dernière fois, on était à Coléa pour la commémoration de la mort du Khalifa Ben Allal. Mm-hmm. On milite aussi au niveau de ces anciennes villes pour créer des musées au niveau de certaines villes oubliées. Et on a aussi d'autres activités pour l'Amir Abdelkader. Actuellement, on prépare un circuit de l'émir, la dernière nuit de l'émir. Ça s'est passé un 27 décembre 1847, où on a créé un circuit, on va le proposer aux agences de voyage, c'est-à-dire pour faire connaître toutes les villes bâties par l'émir, comme par exemple le Taza, Burj Taza, Burj Amir Abdelkader, il a été Simsit. Il y a aussi le fort de Saïda, parce que Saïda, c'est une ville construite par l'émir. On oublie que c'est une ville qui a été créée par l'émir. On va partir aussi d'autres villes comme Tardumt, du côté de Tiaret. Bon, on a créé ce circuit, on peut le proposer aux agences. Et puis, on va terminer au niveau de l'Razawat pour la dernière nuit de l'émir. Aussi, il n'y a pas de musée de l'émir là-bas. On essaie un petit peu de solliciter l'administration pour la création et pour la préservation de la mémoire de l'émir au niveau de ces villes. Voilà, c'est à peu près ce qu'on fait. En plus, il y a l'art culinaire. On essaie de sauvegarder le patrimoine culinaire local de Miliana.
En tout cas, l'activité de ce week-end, c'est donc la fête du coin qui se déroulera au jardin communal, au jardin du musée communal, l'Émir Abdelkader, le vendredi 18 et samedi 19, et ouvert au public, évidemment, et à tous ceux qui sont de passage à Miliana.
Et durant cette fête, on organise aussi une visite guidée au niveau de la Médina, au niveau de l'ancienne ville. Je veux dire, on invite les auditeurs, les passionnés de belles choses, des produits du terroir à venir. C'est la première édition qu'on a organisée. Voilà.
Merci beaucoup, merci Lotfir Kotami. Donc vous êtes vous êtes toujours aussi en tout cas impliqué dans votre ville Miliana, et on vous en félicite. Au revoir.
Merci, merci Toléa.
Au revoir. Voilà, pour finir, on vous invite à évidemment aller voir nos musées, aller visiter nos musées. Ils sont très beaux, très nombreux à travers tout le territoire national. C'est un thème qui me tient à cœur. On l'avait évoqué durant l'été. Je voulais un peu savoir si ça fait partie de votre programme du week-end d'aller visiter un musée. Nous allons parler en tout cas celui du musée Bardot. C'est un musée de préhistoire, hein, celui du le musée national du Bardot. En ce moment, moment, il y a des expositions permanentes et il y a une exposition qui est limitée dans le temps, celle de l'expo ethnographique africaine. Je vous invite, en tout cas, si vous êtes en ville, si vous passez par là, de franchir la porte du musée. D'abord, le site en lui-même est un très, très, très beau site. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses de notre histoire, de la préhistoire à découvrir et ces expositions dont on vient de parler. Et pour terminer, pour les fans de Freakland et de Shemsou, ils donnent un concert ce vendredi à la salle Ibn Khaldoun. Ça fait un moment qu'il s'est pas produit sur scène. On aurait voulu l'avoir, mais il était très occupé par la préparation, en tout cas, de son concert. Allez, on finit sur Freakland. Merci à vous. Au revoir.
Get to